Je vous remercie, monsieur le professeur. Je vais d'abord commencer par remercier les organisateurs de ce colloque. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui ici et d'avoir travaillé sur la question de l'exemplarité et de s'interroger finalement sur une influence potentielle du monde anglo-saxon sur la manière dont le système juridique français a appréhendé l'exemplarité des gouvernants. Alors, cette notion n'est pas spécifiquement et précisément définie dans le droit positif, mais elle est contenue dans les codes parlementaires de conduite, à la fois en France et au Royaume-Uni. Elle suppose que le parlementaire se conforme aux principes contenus dans le code de conduite et la traduction anglaise de l'exemplarité, le leadership, montre bien ce qui est attendu de l'élu. Il est censé être un leader, être un exemple en se conformant à des contraintes spécifiques. Le mandat implique en effet un exercice intègre et loyal des fonctions publiques. Il s'agit d'être indépendant, objectif, responsable. Dans ce cadre, l'exemplarité fait référence au respect d'un ensemble d'obligations qui sont relativement semblables entre les trois systèmes juridiques que je vous propose d'examiner ici, à savoir la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans ces trois laboratoires d'études, la déontologie se déploie. De plus en plus de normes ont progressivement été adoptées pour assurer que l'élu n'agisse pas en défaveur de l'intérêt général. Le parlementaire est en effet enserré dans un réseau d'intérêts qui influe sur son activité. Cela va donc supposer d'encadrer l'influence réelle de ses intérêts privés en prenant en compte la manière dont le parlementaire agit, tant dans sa vie publique que privée. Ces règles ont été amplifiées et ont été institutionnalisées. Elles se présentent de plus en plus sous une forme impersonnelle, une forme et formelle dans les codes de conduite. Il s'agit d'éduquer les élus et de resserrer le lien de confiance qui va rattacher les gouvernants aux citoyens. Dans ce cadre-là, s'interroger sur la potentielle influence du monde anglo-saxon sur la France s'explique par le fait que les États-Unis sont précurseurs en la matière. En effet, la Chambre des représentants au Congrès américain est la première assemblée à avoir historiquement adopté un code de conduite et un comité d'éthique à la fin des années 1960, avant que le Parlement britannique ne la rejoigne dans les années 90 et que le Parlement français s'aligne dans les années 2010. Ce rapprochement peut s'expliquer, en tout cas, peut s'expliquer en partie à titre introductif, par le fait que les modalités de l'action publique ont évolué. En effet, la doctrine lie fréquemment le développement de mécanismes de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts à l'épanouissement de la gouvernance qui suppose une harmonisation réciproque et continue entre les intérêts privés et les intérêts publics. Aux États-Unis, la conception traditionnelle de l'intérêt public intègre d'ores et déjà le conflit entre des intérêts particuliers, de sorte que leur encadrement pouvait sembler attendu. De la même manière, au Royaume-Uni, l'intérêt public est pensé à partir de l'individu. Il est entendu comme une somme des intérêts particuliers. C'est pourquoi, comme le remarque le rapport IEST, rendu en 2011, le système politique américain se construit sur un soupçon permanent de conflit entre l'intérêt public et l'intérêt privé du dirigeant. Au contraire, en France, la loi est justement adoptée sur la base d'un dépassement des conflits entre les intérêts particuliers. Les parlementaires s'assurent que la loi Or, les conceptions de l'intérêt général se rapprochent à l'aune de la pension grandissante, à la représentation réelle des intérêts et à la démocratie délibérative. Cela explique que deux autres impératifs concurrents. Le premier suppose de préserver l'autonomie autonomie de l'Assemblée dans la gestion de ses affaires internes. Le pouvoir disciplinaire des chambres reste principalement un pouvoir autonome. Ainsi, les réformes de l'exemplarité au sein des parlements examinés montrent le souci de rendre plus efficace le processus de sanction et de contrôle en interne sans que l'externalisation soit systématiquement une solution réellement envisagée. Il faut ensuite concilier le développement des règles d'exemplarité avec la sauvegarde de la liberté des parlementaires. Dans ce cadre, les règles déontologiques et de bonne conduite au sein des assemblées sont principalement développées et sanctionnées par les chambres elles-mêmes qui préconisent souvent une souplesse afin de protéger la liberté du parlementaire dans l'exercice de son mandat. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps les expériences américaines et britanniques pour ensuite percevoir que la France reprend certaines modalités de cette manière de gérer l'exemplarité des parlementaires sans que ce rapprochement soit complet. Alors, la précocité de la réponse anglo-américaine aux enjeux de l'exemplarité, l'adoption des codes de conduite au Parlement. L'institutionnalisation précoce des règles de l'exemplarité suit un mouvement similaire aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le temps de la régulation informelle précède celui de l'institutionnalisation des règles d'exemplarité. Alors, le temps de la régulation informelle. La régulation informelle des comportements personnels des élus, qui sont potentiellement touchés par des conflits d'intérêts, a accompagné les grandes phases de renforcement de l'autorité du gouvernement fédéral américain, mais avant que ces règles s'institutionnalisent à la fin des années 50, elles relèvent du large pouvoir discrétionnaire des chambres du Congrès. En effet, le Congrès dispose historiquement d'un large pouvoir discrétionnaire sur ses affaires internes en application de la Constitution fédérale américaine. Il est cependant plutôt réticent à l'idée de sanctionner les manquements aux règles de l'exemplarité. Il s'agit simplement d'intervenir en cas de violation qui serait à la fois manifeste et flagrante de la dignité de l'institution. Il incombait in fine aux électeurs de sanctionner eux-mêmes les élus qui seraient non exemplaires. Les sanctions disciplinaires ne doivent en effet pas entraver le libre exercice du mandat et donc les électeurs doivent prendre la décision finale de ne pas réélire les élus. De la même manière qu'aux États-Unis, l'institutionnalisation des règles d'exemplarité au Royaume-Uni n'a pas marqué le début d'une réaction des chambres face à cette problématique. Le Parlement britannique fait en effet historiquement usage de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner les membres qui troublent l'ordre de la Chambre, d'une part, et d'autre part, dans son pouvoir de contempt de nature pénale pour protéger l'intégrité de l'institution. Les chambres revendiquent leurs compétences exclusives sur leurs affaires internes. Elles ont à leur disposition un panel de sanctions disciplinaires. Cette liberté des assemblées va se retrouver dans le processus d'adoption des codes de conduite qui ont été adoptés au sein des assemblées. C'est le temps de l'institutionnalisation. Aux États-Unis, un tournant s'opère en 1958 dans le cadre d'un conflit entre les branches du gouvernement. L'exemplarité est alors une arme stratégique que le Congrès va employer pour imposer à l'exécutif l'adoption d'un code de conduite à la suite d'un scandale qui impliquait le chef du cabinet de la Maison-Blanche. Alors, si ce code de déontologie s'adresse seulement aux membres de l'exécutif, il constitue aussi un tournant pour la déontologie des membres du Congrès, dans la mesure où il existait une asymétrie entre les obligations déontologiques entre, d'une part, l'exécutif et, d'autre part, le Congrès. Or, des scandales politiques continuaient de frapper de plein fouet certains membres éminents du Congrès américain, comme Adam Clayton Powell, qui sera exclu de la Chambre en mars 1967. Ce scandale a rendu l'adoption de codes de conduite au Congrès indispensable aux yeux de la majorité. Et sur ce point, les deux chambres aux États-Unis vont développer des mécanismes de déontologie qui sont légèrement différents. Donc, je ne vais pas reprendre dans le détail toutes les règles, ce serait beaucoup trop long et un peu fastidieux. Ce que je vous propose, c'est plutôt de mettre en perspective les différents mécanismes de l'exemplarité dans les chambres américaines pour voir comment cela fonctionne. Alors, au Sénat, un comité d'éthique bipartisan et permanent a été mis en place en 1964. Il va rédiger un code d'éthique destiné aux sénateurs. Ce comité devient l'organe principal du contrôle de l'éthique. Il est exclusivement composé de sénateurs et va centraliser entre ses mains les différents pouvoirs en matière de déontologie. Il va éduquer les sénateurs sur les règles de l'exemplarité. Il va procéder lui-même aux investigations préliminaires. Il intervient ensuite dans la phase de sanction. S'il considère que le manquement aux règles d'exemplarité est plutôt modéré, il peut prononcer lui-même la sanction. Il peut, par exemple, envoyer une lettre de réprimande aux sénateurs concernés. Si, au contraire, il veut marquer la gravité du manquement aux règles de l'exemplarité, il défère le dossier au Sénat, qui lui prononcera en assemblée la sanction disciplinaire. Enfin, ce comité d'éthique dispose d'un pouvoir de recommandation et d'interprétation. On voit qu'aux États-Unis, les chambres adoptent des guides qui vont fournir l'interprétation officielle des règles de l'exemplarité. En 1967, la Chambre basse adopte un code de comportement officiel qui contient des règles très variées et plutôt détaillées sur l'exemplarité des membres de la Chambre. Certains standards sont généraux, par exemple, les membres doivent se comporter pour refléter la crédibilité de la Chambre. D'autres règles sont très précises, donc il y a plein de règles sur la déclaration de cadeaux reçus, sur les voyages en avion. Il y a vraiment un degré de précision qui varie en fonction des règles contenues dans le code. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est que finalement, la Chambre des représentants a mis plusieurs décennies avant que soit mise en place une institution indépendante au sein de la Chambre pour procéder aux investigations sur les manquements à l'exemplarité. Traditionnellement, le comité d'éthique centralisait les différentes compétences en la matière et il faut attendre 2008 pour qu'une institution indépendante soit mise en place. Il s'agit systématiquement de renforcer la responsabilité des élus en confiant à une institution indépendante le soin d'enquêter lors de la phase préliminaire. Le comité d'éthique reste cependant l'institution principale. Il va interpréter le code et prononcer des sanctions en matière d'exemplarité suivant un système de gradation qui ressemble à celui du Sénat. Alors, l'exemple américain appelle trois observations principales. La première est qu'aucune institution indépendante ou congrès américain ne peut prononcer elle-même les sanctions disciplinaires. En deuxième lieu, l'adoption de lois et de résolutions qui vont compléter cet arsenal de déontologie ont été renforcées à partir des années 60, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où la doctrine américaine, avec la théorie du choix public, va progressivement insister sur le fait que les gouvernements sont principalement des agents rationnels égoïstes qui vont maximiser leurs intérêts privés. Et cette conception pessimiste de la formation de la règle de droit va appeler un encadrement plus ferme au sein des chambres et de l'action de ses membres. L'un des enjeux devient alors de déterminer s'il convient d'alourdir les exigences existantes, mais aussi de savoir s'il est pertinent d'accentuer des contraintes spécifiques qui pèsent sur les élus. Par exemple, en janvier 2022, le New York Times titre en mettant en avant le problème suivant, les membres du Congrès américain profiteraient de leur connaissance des choix politiques à venir pour acheter et vendre au moment le plus opportun leurs actions en bourse. Une proposition de loi a donc été envisagée qui consisterait à les contraindre à confier leurs actifs financiers à un tiers pendant la durée de leur mandat. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les démocrates s'y opposent assez largement et Nancy Pelosi refuse d'accentuer la différence de traitement entre les citoyens et les gouvernants. Elle estime en effet que chacun doit pouvoir tirer profit de l'économie libérale en y participant activement. En troisième lieu, la profusion de détails dans les règles de la Chambre ne prive pas les assemblées de leur large pouvoir discrétionnaire en la matière. En effet, il y a certes aux États-Unis une institutionnalisation des règles de l'exemplarité qui est précoce et qui est détaillée. Néanmoins, on voit surtout une coexistence entre un droit écrit et un droit non écrit qui protège l'autonomie des chambres. Ce principe est extrêmement important dans la mesure où les autres branches du gouvernement ne sont pas censées s'immiscer dans la gestion des affaires internes. Et donc, les sanctions disciplinaires des membres de la Chambre, en application des principes d'exemplarité, n'appellent pas à un contrôle juridictionnel extérieur. Au Royaume-Uni, l'autonomie des assemblées a également été déterminante. Et de la même manière qu'aux États-Unis, les grandes vagues de renforcement des règles d'exemplarité ont été concomitantes à des scandales politiques particuliers. Par exemple, au milieu des années 1990, le scandale des Cash for Question a conduit à l'adoption d'un code de conduite à la Chambre des communes et à la nomination d'un commissaire à l'éthique. De la même manière, le scandale des notes de frais a poussé des institutions à mettre en place une autorité indépendante qui sera chargée de contrôler les notes de frais et les indemnités des membres de la Chambre des représentants. On voit bien un parallèle avec les États-Unis ici, parce que les chambres se sont elles aussi dotées à la fois de codes de conduite et de comités de déontologie. Alors, on voit que les règles ressemblent grandement à celles contenues dans les codes de conduite aux États-Unis, et que ces règles sont appliquées au cas par cas parce que les chambres considèrent que les règles écrites ne peuvent pas contenir tous les manquements aux règles d'exemplarité. Donc, il y a vraiment une volonté d'inciter les députés à se rapprocher des instances de déontologie pour obtenir des conseils sans que l'écrit ne puisse contenir l'ensemble des règles. La structure des institutions de déontologie montre que les Anglais ont essayé de renforcer l'indépendance des instances de déontologie au sein de leurs assemblées concernant la phase d'investigation préalable. Cette phase est systématiquement confiée à des institutions indépendantes et on voit qu'à mesure que les chambres ajoutent de nouvelles obligations, elles peuvent développer ces mécanismes de déontologie. Par exemple, en 2008, la Chambre des communes a introduit une nouvelle obligation qui est formulée en des termes assez généraux. Il convient d'être courtois, professionnel, respectueux et digne à l'égard de tous ses interlocuteurs parce qu'il y avait des plaintes récurrentes de harcèlement sexuel au Parlement. Et on voit que non seulement la Chambre adopte cette obligation, mais qu'ensuite, elle met en place un enquêteur indépendant qui interviendra dans une première phase avant de saisir ensuite l'instance indépendante d'enquête préliminaire avant de saisir ensuite le comité d'éthique qui formulera des recommandations à la Chambre. Au Royaume-Uni, seules les chambres peuvent prononcer des sanctions. Donc on voit bien que ce qui est assez frappant, c'est la précocité de la réaction du Congrès américain aux règles de l'exemplarité et on voit une certaine ressemblance aujourd'hui entre la France et le monde anglo-saxon. Ce que je vous propose de voir à présent, c'est de voir que, effectivement, en France, on voit le développement d'une culture de la déontologie dans les assemblées parlementaires et ensuite essayer de mesurer cette influence du monde anglo-saxon sur la France pour essayer de nuancer l'idée qui peut apparaître à première vue d'une influence directe du modèle américain sur la manière française de gérer l'exemplarité. Alors, on voit que les assemblées françaises ont progressivement développé des pratiques de transparence en développant une culture de la déontologie au Parlement. D'une part, les assemblées se saisissent plus directement de la problématique des conflits d'intérêts. Il s'agit tant de prévenir le conflit d'intérêts que l'apparence du conflit d'intérêts. D'autre part, les assemblées se sont dotées d'institutions de déontologie au Parlement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notamment, un déontologue indépendant a été mis en place en 2011 et lui revient d'infuser une culture de l'exemplarité et de la bonne conduite en faisant preuve de pédagogie éthique. Et on voit que, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, le succès des politiques d'exemplarité va surtout dépendre d'une acculturation des parlementaires qui vont devoir se rapprocher des déontologues pour obtenir des conseils, mais il s'agit bien de les inciter à s'interroger par eux-mêmes sur les différents conflits auxquels ils peuvent être exposés et de les déclarer. Et cette manière de gérer les conflits d'intérêts est tout à fait perceptible dans les recommandations des déontologues à l'Assemblée nationale. Par exemple, en 2019, Agnès Roblot-Troisier, qui est alors déontologue à l'Assemblée nationale, propose de mettre en place un système de déclaration ad hoc d'intérêts et de déport, mais elle insiste sur le fait que ces mécanismes ne doivent pas être contraignants et obligatoires pour les députés. Il faut que chaque député puisse librement décider de l'opportunité à la fois de déclarer ses intérêts de manière ad hoc, mais aussi de se déporter, de ne pas participer à la délibération. Il n'est donc pas question de remettre en cause le principe de liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Le bilan est jugé mitigé par le rapport d'information qui a été remis à l'Assemblée nationale le 15 décembre 2021, parce qu'en pratique, les parlementaires français se saisissent assez peu de ces outils. Cependant, le rapport insiste toujours sur l'impératif d'acculturation. Il ne s'agit pas d'abandonner le droit souple, mais d'inciter les assemblées à communiquer davantage sur les bonnes pratiques. Il faut jouer sur la conscience des élus et ne pas leur imposer des obligations trop contraignantes. La mise en œuvre des règles d'exemplarité reflète ainsi le souci de protéger l'autonomie des assemblées, ce qui pose le problème de l'externalisation. L'externalisation consiste à définir qui sera compétent pour adopter les règles de l'exemplarité, assurer leur respect et sanctionner leurs manquements. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a une certaine externalisation avec un renforcement de l'indépendance, mais systématiquement, la sanction est prononcée par les chambres. En France, on voit que cette externalisation est plus poussée. D'une part, le déontologue à l'Assemblée nationale est lui aussi une personnalité indépendante. D'autre part, et surtout, à la suite des lois Cahuzac, une étape importante a été franchie avec la mise en place de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui va contrôler et publier, selon des modalités précises, les déclarations d'intérêts et de patrimoine des parlementaires. Mais on voit bien que de la même manière qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, le Conseil constitutionnel va protéger l'autonomie des assemblées en application du principe de séparation des pouvoirs. Il va considérer que cette haute autorité ne peut ordonner aux parlementaires qu'ils mettent fin à une situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils se trouvent. L'autonomie des assemblées est donc systématiquement protégée dans ces trois systèmes. Cependant, on voit qu'il y a un particularisme français qui persiste en la matière, parce que je me suis demandé, en essayant de sonder cette influence, si finalement il existait un particularisme, mais aussi si les différents rapports consacrés à l'exemplarité, donc les rapports Sauvé, Jospin, Hyest, mais aussi les rapports annuels rendus par les déontologues à l'Assemblée nationale, si ces rapports préconisaient des solutions qui s'inspiraient directement du droit étranger. Pour le dire autrement, j'ai cherché pour savoir si l'argument de droit comparé avait une place particulière dans la manière de concevoir l'exemplarité en France. Et ce que j'ai trouvé, j'ai été assez surprise parce que la première impression de la chronologie, de la précocité de l'expérience américaine pouvait laisser penser qu'une volonté de s'inspirer de ce modèle étranger était l'une des principales motivations. Or, L'idée qu'il y aurait une transposition des règles anglo-saxonnes à la France de manière brute me semble assez excessive, dans la mesure où, d'une part, les règles adoptées dans les différents systèmes, et notamment en France, vont découler de scandales politiques nationaux qui vont déterminer en partie les règles de l'exemplarité. Ensuite, la place de l'argument de droit étranger est tout à fait mesurée. Certains rapports ne mentionnent pas du tout le droit étranger, d'autres le mentionnent en rappelant toute la précaution qui est demandée. Il ne s'agit pas d'imposer des contraintes excessives aux parlementaires si celles-ci ne semblent pas efficaces. Certains rapports vont même plus loin et présentent l'exemple américain comme un contre-exemple. Par exemple, M. Urvoas, lorsqu'il présente à la Commission des lois à l'Assemblée nationale les lois Cahuzac, affirme que le système américain ne fonctionne pas parce que confier le contrôle de l'exemplarité au Congrès ou aux électeurs équivaut finalement à une absence de contrôle du respect des règles de l'exemplarité. Et donc, la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est présentée comme une solution française en opposition à ce qui se fait à l'étranger. Pourtant, quelques années de mise en œuvre de ce mécanisme montrent que la France reste quand même confrontée à des problématiques et à des obstacles similaires à ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni. D'une part, dans le champ de sa compétence autorisée, le contrôle de la Haute Autorité est modérément efficace. D'autre part, un renforcement potentiel du rôle de la haute autorité se heurte au principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel rappelle systématiquement qu'il n'appartient pas à cette haute autorité de développer les règles de déontologie parlementaire. Ainsi, on voit que si le manque d'efficacité du système américain est partiellement confirmé par les faits, la protection constitutionnelle du principe de séparation des pouvoirs peut aussi conduire à protéger l'autorégulation des questions d'exemplarité par les chambres elles-mêmes, ce qui peut reproduire, dans une certaine mesure, les défauts du système américain. Alors, pour finir extrêmement rapidement, on voit que cette influence donc, est toute relative dans la manière d'adopter les règles, mais aussi dans les solutions qui sont finalement adoptées. Le mimétisme est relatif. Trois exemples l'attestent. Premièrement, les déclarations de patrimoine occupent une place centrale en France à la suite des lois Cahuzac. Elles sont distinguées des déclarations d'intérêt, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis, et elles sont plus strictement contrôlées que les déclarations d'intérêt. Ensuite, la France a une conception plus restrictive du champ de la prévention des conflits d'intérêts. Par exemple, un parlementaire peut s'engager dans une activité de lobbying après la fin de son mandat, alors qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, il s'agit de prévenir et de sanctionner ces conflits d'intérêts futurs. Enfin, la France reste encore marquée par une logique d'interdiction, dans la mesure où elle connaît un régime d'incompatibilité assez strict. Au contraire, la logique de prévention des conflits d'intérêts supposerait une appréciation plus individualisée des cas, comme le modèle anglo-saxon qui privilégie la liberté des membres en la matière. Il s'agit de pouvoir exercer des activités professionnelles en dehors des fonctions, mais de les déclarer en application du principe de transparence. Une partie de la doctrine française préconise ainsi d'actualiser le droit français à la lumière du droit étranger. Par exemple, Baptiste Javary, qui a consacré sa thèse à la déontologie parlementaire, estime que les pays de common law présenteraient l'avantage de proposer un système qui serait à la fois plus souple et moins discriminant à l'égard de certaines professions. Je vous remercie.